Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle émission, nouveau patrimoine à évoquer ensemble. Cette fois, nous allons nous intéresser à un patrimoine qui fut d'une importance capitale et, pourquoi pas, qui pourrait le redevenir si toute évolution, toute utilisation électrique ou électronique devenait impossible. C'est un marqueur du temps, c'est un moment fort de la vie familiale ou communale, c'est une invitation à des moments particuliers, festifs le plus souvent, mais qui servait aussi en cas de danger. Ce patrimoine est sollicité lors des baptêmes, lors des mariages, lors des funérailles et lorsqu'il y a la nécessité de sonner le tocsin. Aujourd'hui, nous allons parler des cloches de nos églises, de nos beffrois, mais aussi, pourquoi pas, de nos entrées cochères. Pour nous familiariser avec leur existence, nous rencontrons Patrick Gelet, campanologue. Bonjour Patrick, pouvez-vous vous présenter ?
Alors bonjour, je suis Patrick Gelet, j'ai 62 ans et je suis dans l'art campanaire depuis 1986. J'attaque ma 40e année. Donc je pense céder ma société pour la reprise d'activité et d'entretien des cloches en place, mais surtout pour continuer mon travail au sein du Centre études des patrimoines pour le relevé historique des cloches très intéressante, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont inscrits sur les cloches et qui relatent les faits passés sur les communes.
Ce mot cloche, d'où ça vient ? Il y a forcément une origine ?
Une origine latine, clocae. Et la cloche est un instrument, un idiophone. C'est par la percussion qu'elle renvoie un son.
Mais quelle ancienneté peut-on leur attribuer ?
Alors les premières cloches qu'on retrouve dans le monde, c'est des cloches chinoises qui datent de 2200 avant Jésus-Christ. Alors on pense qu'il y a eu encore des cloches plus anciennes depuis que l'individu est capable de forger. Il y a eu des cloches en ferraille martelée, et qui étaient faites en forge. La cloche bronze existe, les plus anciennes cloches bronze dont on a retrouvé des traces, c'est 2200 avant Jésus-Christ en Chine. Et les cloches les plus anciennes qu'on retrouve en Europe datent de la partie, on va dire, le 5e, 7e siècle, en Italie, dans la région qui s'appelle la Campanie. C'est le diminutif de la campanae, c'est la cloche.
Mais petite cloche, grosse cloche, cloche de porte ou pour les bovins, on trouve toutes sortes de cloches avec d'ailleurs des tonalités plus ou moins harmonieuses et très différentes. Comment sont-elles fabriquées ? Parce que le principe de production est sans doute très industrialisé.
Alors la préparation d'une cloche, ça part d'un métal en fusion, dont les proportions sont un petit peu hybrides avant le XVIIIe siècle. Parce qu'avant le XVIIIe siècle, c'était ce qu'on appelle des maîtres cintiers qui se baladaient de village en village et qui proposaient leurs services en faisant la coulée des cloches. Alors ces maîtres cintiers ont commencé de travailler en France et en Italie, on va dire le sud de l'Europe, à partir essentiellement du 7e siècle. Alors certaines cloches très anciennes, il faut savoir qu'une cloche, la majeure partie des matériaux, c'est le cuivre, et l'autre partie secondaire, c'est l'étain. Après la Révolution française, les ateliers de fonderie se sont sédentarisés. Il n'y avait plus de cintiers itinérants qui fabriquaient des cloches sur le site. Donc ça a été tout fait avec la Révolution industrielle. Il y avait des ateliers, véritables ateliers, à partir du début 19e siècle.
Et qu'en a-t-il été à la Révolution, période à laquelle il a fallu récupérer beaucoup de bronze pour fabriquer des canons ?
La Révolution était catastrophique pour le monde des cloches en Europe et tout particulièrement en France. Il y a eu un arrêté. Les révolutionnaires avaient besoin de beaucoup de matière à partir de 1789-1790 et jusqu'en 1805 à peu près. Le bronze, c'était difficile de le trouver. Donc on a sacrifié de nombreuses cloches qui étaient en place dans les clochers. Ils ne voulaient pas complètement dépouiller les églises, ils voulaient garder au moins une cloche civile. Et puis éventuellement une cloche pour l'alerte et pour les funérailles. Et on a voulu quand même en conserver une sur un clocher où il y avait plusieurs cloches. Alors l'arrêté révolutionnaire de 1793 prévoyait de descendre toutes les cloches sauf une, qu'on préservait dans chaque commune. Les communes qui n'avaient qu'une cloche, on ne touche à rien. Où il y avait de multiples cloches, je prends l'abbaye de Cluny par exemple. L'abbaye de Cluny possédait 18 cloches avant la Révolution. Il y en a malheureusement 15 qui sont repassées en fonderie royale. Alors il y en a eu de refondues à Autun, il y en a qui sont parties dans l'Ain. Enfin, ça a été disséminé un petit peu partout. Les révolutionnaires avaient ordre de les descendre intègres. Ils n'avaient pas le droit de les casser sur place et d'emmener les morceaux. À l'avant de la refondre, ils devaient la classifier et en dire, voilà, elle provient de telle ou telle commune. En Zilduc, avant la Révolution française, il y avait 4 cloches. 3 ont disparu au moment de la réquisition, pour ainsi dire. Celle qui est restée, ben, c'est la plus ancienne, c'était la plus grosse. Et elle est restée, elle était difficile à descendre sans la casser. Donc ils ont descendu les 3 petites, qui ont été sacrifiées. Alors c'était toutes des cloches, bien entendu, du 14, 15, 16 et 17e siècle. Et la grosse est restée, et la grosse est admirable, parce qu'elle est datée de 1514. Et c'est un beau bébé de 750 kilos. Et à l'époque, couler une cloche de 750 kilos avec les moyens qu'on avait en début XVIe siècle, ben, ils avaient que le charbon et le bois pour échauffer la matière. Sachant qu'une cloche, quel que soit son poids, son diamètre et tout, il faut qu'elle soit coulée très rapidement. Il ne faut pas une dispersion de la chaleur au moment de la couler, autrement ça fait ce qu'on appelle des scories. Et la cloche, elle ne peut pas garder son intégrité fonctionnelle et également musicale. C'est pour ça que les cloches, quand c'était des fonderies par des itinérants, y en avait souvent une sur deux qui était ratée. C'est au démoulage, quand ils cassaient le moule, après refroidissement, ils prenaient un petit maillet, ils soulevaient la cloche. Si le son était correct, ils la validaient. Si le son n'était pas correct, on prenait la masse, on recassait et on recoulait. C'est l'avantage un petit peu de la matière. Bronze, mélange cuivre et étain, c'est que vous pouvez le recycler à l'infini. Bien entendu, une cloche qui va faire une tonne, on va la recouler parce qu'elle est cassée, elle a en gros, bon an mal an, 7% de ce qu'on appelle la perte au feu. Mais par contre, elle va gagner en rigidité, en solidité, puisqu'on aura éliminé encore toutes les impuretés de la première coulée. Une cloche refondue est généralement de meilleure qualité dynamique, mais également sonore. La proportion idéale, c'est 78% de cuivre et 22% d'étain. Alors à l'époque, pour respecter 78-22, avec les moyens qu'on avait au 15, 16 et 17e siècle, c'était un petit peu du tâtonnement.
Et ces objets qui semblent éternels, vous parlez d'une cloche de plus de 2200 ans, ont-ils besoin d'un entretien ?
C'est comme un piano, au bout d'un moment, le piano, quand vous avez joué de nombreuses années, qu'il a changé de conditions climatiques, le son, on peut dire que la cloche, quelque part, est désaccordée. La cloche, elle subit les outrages du temps, au niveau de l'accrochage sous son joug, ou le mouton, c'est l'élément suspenseur de la cloche. Donc si les brides ne sont pas correctement resserrées, ça a tendance à vibrer dessus, et le son est un petit peu dégradé. Et le deuxième point, c'est le point où il y a la percussion du battant. Le battant percute la cloche toujours au même endroit. Il tape toujours au même endroit, le battant, et au bout d'un moment, il creuse la partie frappée, ce qu'on appelle le point de frappe. Et quand le point de frappe perd en épaisseur par rapport à son épaisseur nominale, quand on est tombé entre 12% de taux d'usure, on dit l'élément est désaccordé.
Alors que fait-on ?
Alors que fait-on ? Déjà, le battant est pour beaucoup. Par exemple, la petite commune de Poisson, là, à côté de Saint-Christophe, sur une cloche du XVIIe siècle, le battant était celui d'origine, mais il était complètement aplati sur son point de frappe. J'ai démonté ce battant et on l'a repassé autour. On lui a redonné sa cylindricité. Et donc, on a recréé ce qu'on appelle un point de frappe et non une zone de frappe, comme si vous tapiez avec un marteau. Parce que le fait de travailler, plus la surface est grande, plus l'élément percuté est fragilisé. C'est comme le principe d'une enclume, il faut que ce soit le marteau qui s'use et non l'enclume. Et là, en fin de compte, quand le marteau est trop écroui, il devient plus dur que le bronze de la cloche, donc il est susceptible de briser la cloche.
Nous rencontrons aujourd'hui Patrick Gelet, campanologue, qui nous fait découvrir tout ce qui se rapporte à la vie des cloches, de nos clochers et de nos beffrois. Patrick, si j'ai bien compris, une cloche, ça vit, et il faut précisément vérifier sa santé périodiquement.
Donc ce qu'on vérifie, nous, c'est au fil du temps, surtout sur les cloches très anciennes. Quand je dis très anciennes, c'est ayant dépassé le cap des 200 ans. Hein, donc des cloches qui peuvent avoir un intérêt historique de conservation. C'est de les garder en état sonnante. Malheureusement, des cloches brisées, on en trouve beaucoup. Toutes celles qui ont échappé à la fonderie de la Révolution, elles ont continué de sonner manuellement. Puis à partir de début XXe siècle, on a commencé d'électrifier les premières cloches. Et l'électrification des cloches, ça a été ravageur pour ces cloches. Le sonneur ou le bedeau, il savait doser l'effort. Quand la cloche était en mouvement, il n'avait pas besoin de tirer comme un forcené pour la maintenir en état d'équilibre. D'une seule main, vous pouviez sonner une cloche de 400 kg. Après, les cloches plus lourdes, il fallait prendre les deux mains et vous entreteniez le mouvement de balancement de cette cloche. Un moteur électrique, lui, c'est partout ou rien. Dès que la cloche est en route, il continue de tracter à la même puissance. Et là, on a dégradé des cloches et on a brisé des cloches, de nombreuses cloches anciennes, parce qu'elles étaient déjà plus fragiles, ayant déjà servi de nombreuses décennies, voire de nombreux siècles. Donc elles avaient déjà un point d'usure amorcé. Et le fait de les électrifier, on a brisé des quantités de cloches anciennes avec l'électrification. Ça a été ravageur pour les cloches.
Alors, une cloche brisée, il y a un moyen de la réparer en la maintenant en service ou si malheureusement sa vie est terminée?
Sa vie n'est pas totalement terminée parce qu'il y a des procédés qui sont de l'Allemagne où ils ont trouvé un procédé par mise au four de la cloche. Vous la posez à l'envers dans un moule, vous la chauffez progressivement jusqu'à obtenir ce qu'on appelle le point de malléabilité. Vous la chauffez aux alentours de 700 degrés, donc elle est en limite de malléabilité, et puis vous refaites de la soudure à l'arc.
Soudure à l'arc, ce qui veut dire qu'on peut se féliciter des techniques d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut prévoir le résultat acoustique dès la construction, dès la fabrication de ces cloches?
Alors le résultat avant la fonte des cloches dans les ateliers, après ils avaient des abacs qui déterminaient par exemple une note pratiquement correcte. Vous vouliez un do de la quatrième octave, vous obteniez un do. Puis après, on avait la possibilité d'usiner la partie pour accorder la cloche. Alors à l'époque, ça se faisait avec des tours mécaniques. Maintenant, ça se fait avec des tours électriques. On arrive à un degré de précision pratiquement absolu au niveau de la qualité de la note. Sur les trois fondeurs qui restent en France, il y en a un qui fait des cloches tout particulièrement de très très belle qualité, des cloches qui sont faites pour durer 200 ans et plus. Par contre, elles ont une sonorité un petit peu métallique parce qu'elles sont surdimensionnées pour avoir une rigidité accrue au fil des décennies, des centaines d'années. Après, vous avez la deuxième fonderie qui se trouve à Villedieu-les-Poêles, on a souvent des reportages à la télé, qui fait des instruments de musique.
C'est-à-dire ?
Si une cloche n'a pas le son parfait pratiquement à la coulée, il va la casser, il va la refondre.
Concernant la vie de ces cloches, vous avez certainement eu l'occasion de voir des situations un peu exceptionnelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
J'ai l'exemple qui reflète bien l'usure de ces cloches. C'est Barbara, son nom de jeune fille, dirons-nous. La cloche numéro 1 à l'église romane de Varennes-Larconce. Cette cloche avait eu un taux d'usure aux alentours de 25%. Donc elle avait largement dépassé son seuil de fragilité et menacé à court terme de se fêler ou carrément de se casser. Et quand on a fait un petit audit au niveau des anciens de la commune, ils disent « Ah oui, mais quand elle était en tirage corde, elle avait un son très clair. » Par contre, dès qu'on l'a eu électrifiée, le son s'est dégradé au fil du temps. En matière de conservation, on a dit « Ben, celle-ci, il faut l'arrêter. » On avait gardé la sonnerie, ce qu'on appelle teintée, mais la sonnerie pour les messes, on l'avait supprimée.
Et actuellement,
on l'a descendu, on l'a emmené dans un atelier où ils ont pu la recharger à son système d'origine. Recharger, réaliser au niveau de son point de frappe, la mise en place d'un battant neuf approprié, c'est-à-dire un battant dont la proportionnalité du carbone fait que l'indice de dureté est plus faible que celui de la cloche. On a retrouvé, les anciens, quand ils l'ont entendu sonner, ils ont dit, on a retrouvé la sonnerie comme au départ des années 70-75. Par contre, comme c'était une cloche déjà très ancienne, qui était en cours de classement, c'était une œuvre d'art. On se doit de les conserver, c'est une œuvre d'art. Toutes les cloches dont je soupçonnais une fêlure proche, on les a toutes arrêtées en effet dynamique, c'est-à-dire en volée. La mise en volée, on a tout supprimé, on a fait ce qu'on appelle de l'imitation de volée. L'imitation de volée, je l'ai fait sur de nombreuses cloches, y compris des cloches qui ont moins de 200 ans, mais qui ont énormément sonné. et qui atteignent un taux d'usure déjà très important.
Alors, lorsque l'on parle de restauration d'une église, très souvent on parle de la toiture, on parle des extérieurs, on parle des éléments du bâti, exactement, éventuellement de toute la décoration intérieure. Est-ce que l'on tient compte au vieillissement de la cloche, à sa qualité sonore et mécanique ?
Souvent, c'est zappé dans les appels d'offres ou dans les relevés architecturaux. Ce qu'on met plus en avant maintenant, c'est la structure porteuse des cloches, qu'on appelle vulgairement le beffroi. C'est soumis à des contraintes dynamiques. Et les contraintes dynamiques, une cloche d'une tonne, quand elle sonne ce qu'on appelle en lancer franc, elle développe 2,7 fois son poids en effort dynamique. Donc une cloche qui fait une tonne, elle fait 2,7 tonnes de poussée sur le beffroi. Donc si le beffroi n'est pas bien stabilisé et ne permet pas d'obtenir des oscillations, ça fait l'effet coup de bélier dans la maçonnerie.
D'où la nécessité de mieux vous intégrer à chaque fois qu'il y a une restauration dans une église.
Exactement. Il y a des appels d'offres comme ça. Moi, je fais toujours mettre une rubrique supplémentaire, vérification de l'état de support des beffrois. Avant, les sonneries étaient de façon manuelle, donc il y avait toujours un intervenant humain. Donc l'intervenant humain, s'il entendait un bruit bizarre, il prenait son marteau, sa clé à l'époque, il resserrait, il changeait des brides, il changeait des chevilles, et puis il savait doser l'effort. Quand il y avait plusieurs cloches, il savait, quand ils étaient deux sonneurs, ils s'arrangeaient toujours pour les cloches se croisent.
Patrick, nous sommes dans une région privilégiée pour la qualité de son patrimoine, vous le savez. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce le cas également pour l'art campanaire ?
L'arrondissement de Charolles, qui représente à peu près 135 communes, on a relevé à peu près 80-85% des cloches. L'arrondissement de Charolles se trouve positionné par rapport à la conservation des cloches anciennes dans les premiers arrondissements de France, si ce n'est le premier. Il nous reste 50 cloches sur les 400 qu'on a relevées, qui dateraient de la période avant Révolution.
Cher Patrick, vous avez un métier particulièrement intéressant qui rythme notre vie par l'intermédiaire de ces cloches que vous entretenez, pour ne pas dire que vous bichonnez. Merci de nous avoir invités à partager avec vous ces quelques aspects de votre métier. Notre émission se termine. Si nous avions le bourdon, grâce à ces moments passés ensemble, plus rien ne cloche, et nous n'entendrons plus maintenant sonner les cloches avec la même oreille. Vous pourrez vous procurer une petite brochure en téléphonant au 03 85 25 90 09, Centre d'études des patrimoines. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite maintenant de passer de très bons moments avec RCF en Bourgogne.